vais manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, il est 17h30, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30, en partenariat avec Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et le magazine L'Incorrect. Au programme de cette émission, comme chaque mercredi, deux invités. Nous recevons tout d'abord Arnaud Benedetti, politologue, essayiste, un des plus fins connaisseurs de la 5e et fondateur et directeur de la publication de la Nouvelle Revue Politique. Et on reviendra évidemment sur les résultats des municipales, sur la fracture chez les LR, la stratégie du RN de reconquête, les relents d'épuration dans les villes conquises par LFI et les premières projections vues de la présidentielle de 2027. À 18h30, nous recevrons Guillaume Narguet, critique littéraire, critique cinéma, fondateur de la revue À Rebours et cofondateur des éditions Longtemps, à l'occasion de la sortie du premier numéro papier de sa revue consacrée à la transmission. Je vous annonce également, ou je vous rappelle plutôt également, qu'il vous reste quelques jours, chers amis, pour vous procurer le dernier numéro de L'Incorrect, le numéro de mars, dans lequel vous retrouverez un grand et long et très intéressant papier sur le film qui fait débat, Les rayons et les ondes, de Xavier Giannoli, un film sur la collaboration. Donc en effet, c'est un film rare, complexe, magistral et surtout d'utilité publique. Donc il vous reste 2-3 jours pour vous le procurer. Et il vous attend donc chez votre marchand de journaux. Pour m'accompagner aujourd'hui, Rémi Carlu, bonjour.
Bonjour Arthur.
Romaric Sangars, bonjour.
Bonjour Arthur.
Je vous rappelle, chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission et poser vos questions à nos invités par courriel à courtoisie@rc.fr et par téléphone au 01 46 51 00 85. Arnaud Benedetti, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes professeur associé à l'Université de Paris-Sorbonne, directeur de publication et fondateur de la Nouvelle Revue Politique, observateur évidemment très fin de la vie politique française, de ses stratégies, de ses fractures, de ses récits. Avec vous, on va essayer de comprendre ce que disent vraiment le scrutin de ces municipales, parce qu'on a entendu beaucoup de choses depuis dimanche. Alors évidemment, tout le monde a gagné. La gauche a sauvé Paris et Marseille. Édouard Philippe a consolidé sa position au Havre et garde l'espoir de pouvoir se présenter à la présidentielle. Le Rassemblement National progresse localement, mais bute toujours dans les très grandes villes. LFI s'annonce victorieux partout. LR revendique un retour en force, tout en révélant en même temps des divisions assez profondes. Bref, tout le monde est sur les starting blocks, sur la ligne de départ, pardon pour l'anglicisme, pour 2027. Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, si vous aimez la politique, surtout lorsqu'elle cesse d'être un simple commentaire d'écume, pour revenir au fond des choses, ben restez avec nous. Mais vous le savez également, on a une tradition dans Radio Courtoisie, dans Restons Courtois, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Arnaud Benedetti, quelle est la ville française qui résume le mieux la politique aujourd'hui?
Peut-être Nîmes, au vu des résultats. C'est-à-dire une droite majoritaire qui perd face à une gauche qui est minoritaire. Ça me paraît être un grand classique de la vie politique française.
Le mot politique qui devrait être interdit pour au moins 6 mois et pour toutes les prochaines campagnes.
Responsabilité.
Chez LR aujourd'hui, qu'est-ce qui manque le plus? Un chef, une ligne ou un exorciste?
Peut-être un exorciste pour se désenvoûter d'un certain nombre d'interdits moraux qui pèsent sur elle depuis... qui pèsent sur LR et sur la droite d'ailleurs dans son ensemble depuis des décennies.
Non, le politique français qui a le meilleur instinct animal?
Alors il y en a deux à mon sens. Mélenchon, indéniablement, c'est un très grand stratège, et Marine Le Pen qui quand même a une intelligence de la situation politique qui s'épaissit au fil des temps.
Quelle est la phrase qu'on entend le plus le soir d'une défaite?
Les Français ont voulu nous dire.
Quelle est la vertu la moins utile en politique?
Hélas, le courage, souvent.
Et la plus indispensable?
L'énergie, vous savez, au sens machiavélien du terme, la virtu.
Quel est le plus grand mensonge de la vie politique française?
Le Front Républicain, indéniablement.
Si Jordan Bardella était un meuble de cuisine?
Un meuble de cuisine.
C'est une question bizarre.
C'est une vraie colle.
Vous n'avez pas vu la suite.
Bah, peut-être si. J'ai un micro-ondes, parce que le micro-ondes, ça chauffe pas toujours très bien.
Si Bruno Retailleau était un objet de bureau.
Un cahier d'écolier très bien rangé et très bien écrit.
Si Sarah Knafaut était un instrument.
Un hachoir.
Si David Lisnard était une épice.
Alors là, très franchement, j'avoue que votre question est extrêmement compliquée. Alors, parce que comme il est libéral, je dirais du poivre. Alors vous savez, le poivre, il en faut, mais pas trop dans la vie politique française, malheureusement, quand on dit libéral.
Merci Arnaud Benedetti. Alors, municipal, qu'est-ce que nous disent ces résultats?
Bah, ils nous disent plusieurs choses. Enfin, moi, il y a des enseignements qu'on peut tirer, mais qui sont des prolongements, finalement, des évolutions de la vie politique française depuis de nombreuses années. D'abord, quand même, un taux d'abstention qui est extrêmement important, qui est le plus important. Alors, si on laisse évidemment l'élection de 2020, hein, qui s'est déroulée dans un contexte tout à fait particulier, celui de la crise sanitaire. Non, c'est surtout ce taux d'abstention qui est quand même le plus important lors d'une élection municipale sous la Ve République. Ça veut dire que le retrait civique se fait également aujourd'hui à l'échelon local et pas seulement à l'échelon national. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce qui m'a frappé, c'est, si vous voulez, et d'ailleurs, c'est un prolongement de ce qui se passe au niveau national, c'est la fragmentation du champ politique. C'est-à-dire que quand vous regardez le nombre de listes qui sont en mesure de se qualifier et qui sont qualifiées au second tour de cette élection municipale, vous vous retrouvez avec un très très grand nombre de triangulaires, des quadrangulaires, des quinquagulaires et parfois des villes, des petites villes où vous avez 6 listes qui se retrouvent à s'affronter au second tour. Alors après, il y en a certains qui se désistent, il y a des unions qui se font, etc. etc. Mais quand même, ça dit quelque chose sur l'éclatement de la vie politique, la balkanisation de la vie politique française, dont on a vu qu'au niveau national, elle était très forte maintenant depuis notamment l'accession d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et qui aujourd'hui touche les rivages du local également.
Alors je vous propose qu'on prenne un peu parti par parti, parce que, comme je le disais en introduction, le soir des élections, évidemment, tout le monde a dit « j'ai gagné ». Alors commençons par le Rassemblement National. Alors, ils ont proclamé un peu partout, on a 3000 conseillers municipaux. Et près d'une curiosité un peu malsaine, je suis regardé combien il y avait de conseillers municipaux en France. 514 000. Je me dis, 3000 sur 514 000, c'est quand même pas fou, quoi.
Oui, alors après, vous savez, il y en a quand même beaucoup dans les communes rurales. Et dans les communes rurales, les conseillers municipaux ne sont pas identifiés politiquement. Et certains, d'ailleurs, peuvent être parfois, dans un certain nombre de communes rurales, eux-mêmes Rassemblement National, sans se déclarer Rassemblement National pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer dans un scrutin local où ce sont souvent des listes d'intérêt général ou d'intérêt communal qui se présentent aux électeurs. Donc non, il y a malgré tout qu'on regarde finalement l'histoire électorale du Rassemblement National des élections municipales pour la première fois, si vous voulez, une implantation territoriale qui commence à se faire. Alors, pas dans les grandes villes, c'est vrai. Alors, il y a une exception, c'est-à-dire qu'en fait, dans le sud, dans les grandes villes du sud, ils n'arrivent pas à les conquérir, mais ils font des scores très importants, qu'il s'agisse de Toulouse, qu'il s'agisse de Marseille et qu'il s'agisse de Nice, qui est très différent du reste de la France, parce que bon, il y a une culture politique plus droitière dans le sud, et puis il y a une implantation historique dans le sud du Rassemblement National, mais ils gagnent quand même beaucoup de villes, ils gagnent beaucoup de villes moyennes. Il gagne Carcassonne, il gagne Castres, ce n'était pas attendu. Il gagne Montargis, il gagne beaucoup de villes sur le bassin méditerranéen. Il gagne de Perpignan d'ailleurs jusqu'à Menton. Hein, c'est assez significatif. Il gagne beaucoup de villes dans le bassin minier. Quand on regarde, donc dans leur zone de force, ils sont quand même en net progrès. Et ils arrivent à avoir parfois des petites villes, des villes moyennes, dans des zones où on ne les attendait pas forcément. Je pense par exemple à une petite ville comme de 15 000 habitants, comme La Flèche, dans la Sarthe, qu'ils arrivent à conquérir. Donc pour eux, c'est indéniablement un progrès. Le progrès, il s'appuie aussi sur leurs députés. Parce qu'en fait, ils s'appuient beaucoup sur leurs députés pour transformer finalement les élections de ces députés comme levier d'implantation territoriale. C'est assez intéressant comme stratégie, ce que n'a par exemple pas fait un parti comme le parti macroniste, Renaissance, qui avait beaucoup de députés et qui aurait pu finalement jouer cette stratégie en envoyant des députés aux élections municipales. Ils en ont envoyé pas mal
Et manifestement, ça l'a réussi. Regardez par exemple le cas de Carcassonne, c'est un député de l'Aude qui vient de ravir la cité.
Donc on voit des victoires, l'eau qui monte du RN depuis quelques années, et donc ça continue à monter.
Alors avec des échecs très, très, très nets dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'on voit que dans les grandes villes, hormis les villes du Sud, même Marseille est un succès d'une certaine manière, parce qu'ils n'ont jamais atteint un score aussi important dans une élection municipale à Marseille. Et on ne le dit pas assez, mais ils arrivent à ravir deux mairies de secteur. Donc c'est quand même un point très positif pour eux.
Ils étaient à un point au premier tour.
Oui, alors moi je ne crois pas, si vous voulez, au fait que la ville était accessible pour eux électoralement, hein, malgré un certain nombre de sondages qui montraient que parfois, à un moment donné, Payan et Alizio se retrouvaient quasiment à touche-touche. Je pense que d'ailleurs une partie de l'électorat, vraisemblablement de Madame Vassal, est peut-être partie sur eux dans l'entre-deux-tours. Il est peut-être parti aussi pour partie chez Monsieur Payan, mais la marche était encore un peu haute à Marseille. Je pense que la vraie déception, c'est Toulon, quand même. Ouais. La vraie déception, c'est Toulon, parce que Toulon, c'était accessible dans un département, en plus, où ils ont 7 députés sur 8 dans le Var, il ne faut jamais l'oublier, hein. C'est un des départements qui fournit le plus grand nombre de députés Rassemblement National. Après, Toulon reste une ville de droite, hein, puisque c'est quand même une liste de droite, d'Union de la droite qui l'a emportée. Il y a vraisemblablement aussi, dans les raisons de l'échec de Mme Lavalette, peut-être la mémoire historique du premier mandat du Rassemblement National dans les années 90, en 95 à Toulon, qui a peut-être joué aussi contre elle. Enfin, c'est une hypothèse. Bon, après, c'est vrai que pour eux, de ce point de vue-là, c'est une déception.
Rémi, Carlos.
Non, ce cas est intéressant, d'autant que... Enfin, souvent, on voit que le RN qui prend des villes va chercher des villes aussi à LR, avec une droite locale qui se radicalise un petit peu. Sinon, pour parler plus des grandes villes, qu'est-ce qui manque au RN, précisément, pour être capable d'aller... alors, si ce n'est les chercher, en tout cas, ouais, être capable de pousser un petit peu partout, comme elle l'a fait à Marseille.
À Paris, alors, 99 points.
Ouais, alors Marseille, si vous voulez, les grandes villes du Sud sont des villes où ils étaient déjà historiquement forts dès le début. Qu'il s'agisse de Nice, qu'il s'agisse de Marseille, qu'il s'agisse de Toulon, même dès le début des années 80, du temps de Jean-Marie Le Pen, je rappelle qu'ils envoient des députés à la proportionnelle à Marseille, à Nice, à Toulon, également d'ailleurs à Perpignan. Tout le bassin méditerranéen est une zone d'implantation historique du Front National. Après, je pense qu'ils ont, dans les grandes villes, la difficulté, c'est que soit ils n'arrivent pas à trouver des incarnations, c'est le cas de Paris, par exemple, où manifestement ça marche pas. Mais ils ont une grande difficulté, c'est qu'ils n'ont pas la sociologie pour eux. La difficulté, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez penser à toutes les stratégies, quelles qu'elles soient, quand vous n'avez pas une offre politique qui ne rencontre pas la sociologie de la ville, c'est très difficile. Alors, M. Vallée, finalement, fait un score à peu près honnête à Lille, hein. Il arrive d'ailleurs à rentrer au conseil municipal avec peut-être un ou deux de ses collègues. C'est plutôt méritoire de ce point de vue pour ce qu'il concerne, mais c'est quand même très faible. À Paris, on connaît la sociologie parisienne. Le problème de la sociologie à Paris, alors, vous allez me dire, il y a le contre-exemple, parce qu'il y a Sarah Knafou qui n'est pas tout à fait sur la même ligne que le Rassemblement National. Vraisemblablement, faudrait-il que dans un certain nombre de villes, le Rassemblement National infléchisse un peu son discours, pas sur la question des fondamentaux qui sont les siens, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité, le régalien, mais peut-être plus sur la question économique. Notamment. Je pense que de ce point de vue-là, Sarah Knafou est parvenue, en tout cas, à toucher un électorat, mais qui n'est pas à ce stade fongible dans l'électorat du Rassemblement National.
Donc l'avenir du RN dans les grandes villes, c'est quoi? C'est de trouver des candidats comme ça, capables de détonner, soit anciens LR, soit...
Oui, le problème fondamental, c'est le problème de la droite dans les grandes villes. Au-delà du seul front, du seul Rassemblement National. Parce qu'il y a quand même un grand échec dans cette élection municipale, c'est celui de la droite LR dans les grandes villes. La droite LR n'a plus une seule grande ville aujourd'hui. Il restait Nîmes. Nîmes a été perdu au profit du Parti communiste. Donc, j'allais dire, ce sujet est d'une certaine manière commun à toutes les droites. Parce que finalement, les gauches ont, depuis maintenant presque 20 ans, dans un certain nombre de grandes villes, conduit des politiques telles qu'elles ont réussi une espèce d'alliance sociologique entre des classes populaires issues de l'immigration qu'ils ont fait rentrer dans le cœur de ces grandes villes par des politiques de logement que l'on connaît bien. C'est quasiment 250 000 logements sociaux à Paris en, quelques années. Mais c'est vrai dans d'autres grandes villes. Et avec une sociologie de jeunes bourgeois qui sont progressistes, ou se disent néo-progressistes. Et c'est cette alliance-là qui permet à la gauche de garder son emprise sur ces villes. C'est vrai dans la plupart des grandes métropoles aujourd'hui. Et donc la bascule est extrêmement compliquée. Et ça commence à se voir dans un certain nombre de villes moyennes aussi, où on voit des articulations, des alliances de ce type qui se font. Je pense par exemple à une ville comme Laval, où vous avez le maire socialiste qui a été élu dès le premier tour, avec près de 51%. Laval n'est pas une ville particulièrement à gauche, c'est une ville plutôt de centre-droit, mais cette politique-là systématique, eh ben, porte ses fruits électoralement.
Est-ce que ça veut dire que c'est des villes irrécupérables? On a beaucoup entendu ça pour Paris, par exemple, parce que si on prolonge les courbes démographiques,
oui, alors après,
puisque la gauche reste au pouvoir, on se dit que dans ce cas-là, c'est terminé.
Mur, est-ce qu'il y a un mur sociologique qui empêche la reconquête? Après, tout est possible, hein, après, sur la durée. Mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, ça fait presque un quart de siècle, ça fait plus d'un quart de siècle que la gauche est majoritaire à Paris, et que ça fait plus d'un quart de siècle que les candidatures de droite, quelles qu'elles soient, se heurtent à une forme de mur sociologique qui les empêche de pouvoir reconquérir cette ville. Alors, peut-être qu'il y a des erreurs de casting, mais je pense que les erreurs de casting n'expliquent pas tout, en l'occurrence.
Ça explique peut-être en partie, parce qu'on regarde, le RN a fait 1,5%, mais Thierry Mariani, candidat, avait même pas un budget de 50 000 euros pour faire sa campagne. Ouais. Bon, il n'a pas fait de campagne, clairement. Mais le cas de Sarah Knafo est intéressant, parce que c'est la première fois qu'un parti catalogué, donc dit d'extrême droite, fait plus de 10% à Paris. Elle a mis beaucoup de moyens dans sa campagne. Elle a fait une campagne intelligente parce que c'était affiché positivement dans la communication et une campagne sur des noms connus. Esther, Coxie, bref, ce qu'on appelle campagne de name dropping. Donc là, c'était intéressant et on voit qu'elle fait 10,5, ou un peu plus de 10, avec quand même le catalogué extrême droite, AFD, nazi, tout team, quoi. Donc on se dit, il y a des choses qui ne sont pas complètement perdues si l'extrême droite, entre guillemets, cataloguée comme telle, dépasse les 10 à Paris dans une, avec une sociologie particulière.
Oui, alors elle les fait aussi, ces 10%. D'ailleurs, Éric Zemmour avait fait plutôt de bons scores dans un certain nombre d'arrondissements parisiens lors de l'élection présidentielle. Il était plus haut que le Rassemblement national. C'était un des rares cas où il était plus haut que le Rassemblement national. En fait, cette réussite, elle s'indexe aussi sur la faiblesse de LR, d'une partie de LR. C'est-à-dire que la difficulté de LR, c'est, dans cette affaire parisienne, c'est de faire et de construire une alliance avec le centre, et notamment avec une partie du centre-gauche. Et donc, y a un effet d'éviction qui se fait mécaniquement d'une partie de la droite qui refuse cette alliance parce que se macroniser, c'est finalement accepter les échecs de 10 ans de politique, voire c'est vécu comme une trahison. Et donc, Sarah Knafo a eu l'habileté de récupérer une partie de cet électorat, parce que qu'est-ce qu'elle récupère? Elle récupère essentiellement un électorat LR, hein, Sarah Knafo dans le 16e, dans le 17e, donc c'est très clair. Donc elle bénéficie, si vous voulez, du côté un peu épouvantail de l'alliance avec les macronistes, en plus avec une candidate qui, elle-même, finalement, a accepté de rentrer dans un gouvernement macroniste. Donc, évidemment, elle a, de ce point de vue-là, quelque part, une ressource intéressante sur le plan stratégique. Et en plus, après, elle fait une très bonne campagne. Elle fait une campagne moderne, elle fait une campagne parisienne, elle fait une campagne qui va parler à cet électorat conservateur et qui va surtout, à un moment donné, attirer l'œil des médias, y compris des médias qui ne sont pas forcément favorables à Sarah Knafo.
Alors, si on regarde sur la gauche, on a entendu tout et son contraire sur les alliances entre la France insoumise et le Parti socialiste. Quel est le résultat de ces alliances? Est-ce qu'il y a eu une surmobilisation de la droite? Est-ce qu'il y a eu une défection de l'électorat socialiste? Ou alors ni l'un ni l'autre, en fonction des villes et des sociologies, ça a plus ou moins bien marché? Et quelle conclusion on peut tirer cette alliance-là?
La stratégie des alliances n'a pas véritablement fonctionné. Après, reste à savoir pourquoi elle n'a pas fonctionné. Alors, elle a fonctionné finalement dans très peu de villes. Elle a fonctionné à Nantes, Elle a fonctionné du côté des Verts à Lyon, puisque M. Doucet l'emporte face à M. Aulas dans une alliance avec LFI. Mais après, ce sont des alliances qui sont quasiment perdantes partout. Le cas, à mon avis, le plus emblématique étant celui de Toulouse, où le candidat socialiste va, alors qu'il arrive troisième, va faire alliance avec le candidat de la France insoumise pour pouvoir, si la gauche l'emportait, ensuite gouverner la métropole. Et cette alliance dans une ville comme Toulouse, qui est une ville de gauche, et où il y a une gauche radicale à Toulouse depuis très longtemps, elle ne fonctionne pas. Alors certes, Toulouse, il y a une histoire politique à Toulouse qui est très propre à Toulouse, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'à Toulouse, cette ville de gauche, et même c'est presque une tradition historique depuis près de 40 ans, ce sont, ou même plus, un demi-siècle, ce sont des maires de centre-droit qui sont élus. Finalement, quand vous regardez l'histoire municipale de Toulouse, il n'y a eu qu'une parenthèse ces dernières années, c'est en 2008, je crois, où M. Pierre Cohen, maire socialiste, est élu. Mais il va rester qu'un mandat. Après, le reste, c'est que des maires de centre-droit. C'est Pierre Baudis, Dominique Baudis, plus tard Philippe Douste-Blazy, et ensuite Jean-Luc Moudenc. Mais ce qui est très intéressant à Toulouse, quand même, c'est que ça n'a pas marché. Alors à Toulouse, en plus, vous avez les marqueurs très forts qui ont joué contre cette alliance, le marqueur du rugby, le marqueur de l'aéronautique et du spatial. Bon, tout ça a joué. Et une partie, quand même, vraisemblablement...
C'est vrai qu'il y a eu un vrai front.
Oui, il y a eu un vrai front
du monde civil.
Il y a eu certainement une mobilisation d'une partie de l'électorat centre-droit et droite et de droite en général contre ces alliances considérées comme des alliances contre nature ou des alliances de la honte. Et il y a eu vraisemblablement une partie de déperdition. Parce que à Toulouse, une partie de la bourgeoisie progressiste est consciente de ses intérêts économiques aussi et a vraisemblablement refusé cette alliance. Et donc, on peut expliquer comme ça aussi le fait que ces alliances aient été assez inefficaces, mais elles restent malgré tout encore acceptables pour une grande partie de la gauche et pour une grande partie de l'électorat de gauche. C'est-à-dire considérer que cette élection municipale sonnerait le glas de ces alliances une fois pour toutes, certainement pas. Le débat d'ailleurs est toujours en cours, y compris malgré les provocations, ce qu'on a vécu ces derniers jours avec les passations de pouvoir dans un certain nombre de municipalités remportées par LFI, et il va continuer à se poser jusqu'à la présidentielle, et il va continuer à se poser vraisemblablement dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle si un candidat de gauche était qualifié à ce moment-là. Surtout si c'était Jean-Luc Mélenchon.
Surtout si c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais alors, si on regarde le cas de Marseille et Paris, où ce qui était assez amusant, c'est qu'Olivier Faure, qui nous a parlé de fusion technique, et contre une partie de son bureau, a dit qu'on pouvait y aller. Il a célébré une victoire à Paris. Donc Emmanuel Grégoire, qui a refusé cette fusion technique. C'était quand même le type, il s'est fait opérer de la honte assez rapidement quand même. Bon, Marseille et Paris. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'alliance, puisqu'il n'avait pas besoin la France insoumise, où il y a eu une vraie résistance au sein de ces deux candidats et de quelques forces du PS pour que ni Benoît Payon ni Emmanuel Grégoire s'allient avec Mélenchon, avec la France insoumise.
À Marseille, de toute façon, si vous voulez, une partie du logiciel de Payon est un logiciel communautariste également, qui fait que, d'ailleurs, il avait dans sa liste d'anciens LFI. Hein. Oui. On ne l'a pas dit, mais c'est une réalité, notamment la suppléante de M. Mélenchon. Donc, si vous voulez, il avait déjà fait son marché LFI, sans le dire, avant l'élection municipale. Donc, c'est plutôt bien joué tactiquement de sa part, indéniablement, mais c'est quand même non sans cynisme. Donc, je pense que M. Payen, en effet, n'avait pas forcément besoin d'une alliance avec M. Delogu, malgré la pression très forte de Franck Alizio. Et surtout, M. Payen devait estimer que de son quoi qu'il arrive, Madame Vassal maintiendrait sa candidature pour toutes les raisons qui sont liées notamment à la situation locale avec Monsieur Muselier et le conseil régional. Et donc c'était presque, j'allais dire, pour lui un pari sans risque. Pour Monsieur Grégoire, la vérité, c'est qu'il devait considérer que une partie de l'électorat LFI était totalement absorbable au second tour par sa liste et que une partie de l'électorat aussi de M. Bournazel, qui était quand même issu d'un macronisme de gauche, n'irait pas voter pour Rachida Dati. Donc bon, si vous voulez, ce calcul-là sont des calculs à la fois d'opportunité qui permettent ensuite d'être habillé par une posture morale.
Ouais. Mmh. Et alors, si on prend maintenant le cas de la France insoumise, quelle conclusion on peut tirer de ce scrutin ? Alors, ils avaient sauté la précédente élection municipale.
2020, ouais, ils avaient pratiquement pas rien. Ouais.
Là, on a le sentiment, avec la caisse de résonance, le bruit qu'ils font, les provocations qu'ils font, les coups de projecteur de médias, c'est une victoire pour la France insoumise. Est-ce que, quand on regarde dans le détail, on surestime pas un peu, on se fait pas un peu peur pour pas grand-chose ?
Alors, il y a quand même des prises. Hein. Saint-Denis, Roubaix, un certain nombre de villes en Seine-Saint-Denis, ailleurs. Donc, ils progressent. Ils progressent, évidemment, puisqu'il n'y avait pas de candidat, quasiment pas de candidat en 2020. Mais ils auront aujourd'hui des maires et des conseillers municipaux qui leur permettront vraisemblablement d'avoir des sénateurs dans quelques mois lors du renouvellement du Sénat. Après, si vous voulez, la grande force de Jean-Luc Mélenchon, c'est in fine d'avoir un récit qui est extrêmement performatif. C'est-à-dire que d'ailleurs, ils réagissent très vite, vous remarquez. Comment font en général les cadres de LFI lorsqu'une élection vient de se terminer? Ce sont en règle générale les premiers à réagir. Oui. À réagir parce qu'ils ont cette capacité... Et ils ont compris que ceux qui gagnent l'élection, ce ne sont pas seulement ceux qui gagnent dans les urnes, c'est ceux qui vont imposer le récit. Et on l'avait vu d'ailleurs, rappelez-vous, en 2024, hein, lors des élections législatives, souvenez-vous, l'aéropage de LFI autour de Jean-Luc Mélenchon annonçant la victoire du nouveau Front Populaire, alors qu'ils avaient tout juste 200 députés, ce qui ne permettait certainement pas de constituer une majorité, y compris une majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais ensuite, c'était pris quasiment en boucle par un certain nombre de médias qui... en répétant cela, valider cette stratégie. On a eu un peu cela, en fait, également aux élections municipales, mais ils ont en tout cas réussi à imposer un rapport de force, et c'était ça l'objectif, un rapport de force au Parti Socialiste. C'est-à-dire que le Parti Socialiste est sous la menace, quoi qu'il arrive, y compris maintenant dans les fiefs locaux, parce que jusqu'à présent, si vous voulez, la menace du Parti Socialiste, de LFI sur le Parti Socialiste, ça se faisait nationalement. Mais ça ne se faisait pas sur les élections municipales. Maintenant, ils sont capables de les menacer dans des fiefs locaux. Ils sont capables de menacer leurs barons locaux. Donc, si vous voulez, ils exercent une pression qui est encore plus forte sur le plan local. Donc, indéniablement, ils ont quand même réussi à maintenir un rapport de force, l'accroître même vis-à-vis du Parti Socialiste. Et on va voir comment tout ça va se dénouer dans les mois qui viennent.
Rémi Carlu.
Monsieur Relefi, pensez-vous qu'ils sortent renforcés de cette séquence ? Moi, j'ai l'impression qu'on voit un peu les coups, les contre-coups de leur stratégie. Les bons coups, c'est effectivement miser sur cet électorat communautaire qui leur permet de prendre certaines villes, mais les contre-coups, c'est qu'on a quand même vu que localement, il y a certains électeurs qui se détournent d'eux, qui font un petit barrage, même des électeurs de gauche qui, visiblement, à Toulouse, ne sont pas reportés sur la liste de gauche parce que LFI étaient présents. Est-ce qu'ils ne sont pas devenus aussi un petit peu radioactifs ?
Ils sont
pas totalement, mais est-ce que les gens ne commencent pas à s'en rendre compte ?
Ils sont radioactifs, mais si vous voulez, la radioactivité est certainement plus acceptée à gauche qu'elle ne l'est à droite. C'est un principe. En fait, toute la stratégie de Mélenchon, c'est de toute façon d'imposer son leadership sur la gauche pour être ensuite au second tour de l'élection. D'être le numéro un. Donc, encore une fois, même si le succès, en effet, n'est pas aussi fort qu'il le revendique, il n'en demeure pas moins qu'ils ont réussi encore à imposer un rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, la crise, elle est où ? Elle n'est pas chez LFI au lendemain des élections. La crise, elle est au sein du Parti Socialiste. Regardez ce qui s'est passé hier au bureau politique du Parti Socialiste. Regardez les positions de M. Vallaud, qui aujourd'hui menace de sortir du bureau politique, menace de sortir des fédérations du Parti Socialiste, l'ensemble de ses cadres. Donc la crise, elle est chez les socialistes. Donc indéniablement, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, par la toxicité qui est la sienne, elle a des effets qui sont des effets extrêmement concrets et qui font qu'aujourd'hui, il affaiblit la concurrence, d'une certaine manière, à son profit.
Vous êtes bien sûr sur Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois. Nous sommes avec Arnaud Benedetti pour analyser ce scrutin municipal. Puis ensuite, on va se projeter sur l'après parce que vous n'avez pas échappé que dès le soir même, tout le monde commençait à regarder 2027 et il se passe pas mal de choses. Mais écoutez ce petit message et on se retrouve tout de suite après.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Il est 18h, vous êtes toujours dans Restons Courtois et vous savez qu'à 18h, c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu qui va nous parler de l'audiovisuel public.
Et oui, cher Arthur, hier reprenait les auditions de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, menée d'une main de maître par le député UDR Charles Laloncle. Alors, gabegie financière, conflit d'intérêts, biais idéologiques, soupçons d'emploi fictif, culture de l'opacité et de l'impunité. Depuis plusieurs mois, malgré les pressions folles auxquelles il a dû faire face, le jeune rapporteur dévoile, audition après audition, les dérives toujours plus scandaleuses de l'audiovisuel public. La première leçon de cette commission d'enquête est donc politique. Oui, l'Assemblée nationale peut encore servir à quelque chose, et les oppositions y jouaient un rôle salutaire. Seulement, il faut travailler et avoir suffisamment d'audace pour exploiter le plein potentiel du cadre institutionnel existant. On dit le système corseté et insubmersible, on le découvre en fait assez fébrile pour peu que quelqu'un s'y frotte avec un peu de sérieux. Pour faire vaciller ce Goliath, notre David n'a pas eu besoin d'une fronde, il a plutôt fouillé les entrailles de la bête pour mettre à jour ses failles, ce qui demandait intelligence, rigueur et pugnacité, qualité hélas devenue trop rare dans le monde politique.
Alors parmi les nombreuses révélations de la commission, laquelle vous semble la plus significative ?
On a beaucoup parlé des gabegies financières, aspect sans doute le plus spectaculaire et touchant le plus directement aux intérêts du contribuable. C'était d'ailleurs la position de Vincent Bolloré, auditionné hier. Le service public peut faire à peu près ce qu'il veut, mais pas à ce prix-là. Pour ma part, ce sont les biais idéologiques, impeccablement documentés par une étude récente de l'Institut Thomas More, que je juge les plus graves. En ce qu'ils tordent non seulement la qualité de l'information produite, mais bien le fonctionnement démocratique tout entier.
Pourquoi donc ?
Eh bien, la séquence des municipales nous l'a montré, nous pensons vivre dans une société ouverte où concourent librement des idées plurielles, les élections ayant pour tâche de porter les meilleurs au pouvoir. Or, dans les faits, on remarque un étonnant unanimisme entre les grandes institutions universitaires et journalistiques. Les plus éminentes dictent les orientations politiques à suivre que les autres se chargent de relayer, souvent par opportunisme. Ce phénomène, le penseur néo-réactionnaire américain Curtis Yarvin l'appelle la cathédrale. La cathédrale, c'est ce complexe académico-médiatique qui fait avaler les idées réputées bonnes, c'est-à-dire progressistes, à l'opinion, ceci afin d'orienter les décisions de l'État sans jamais avoir à en assumer publiquement la direction. Le fonctionnement démocratique s'en trouve ainsi court-circuité. L'un des avantages de la démocratie sur les autres régimes, c'est sa capacité supposée par des élections régulières à faire remonter des informations fiables sur l'état du pays pour en corriger si besoin la trajectoire. Or, la cathédrale vient casser cette boucle de rétroaction informationnelle, puisqu'elle agit en amont du jeu démocratique, en viciant l'information pour modifier a priori l'opinion. La compétition des idées est biaisée, la cathédrale progressiste dirige l'État. En France, le service public de l'information, qui a fait l'objet d'une captation idéologique par la gauche, est devenue la clé de voûte de cette cathédrale. C'est elle qui donne le la aux autres instances journalistiques et fabrique du consentement dans l'opinion pour enjoindre le politique à appliquer les idées qui sont les siennes. C'est exactement ce que Thomas Legrand et Patrick Cohen signifiaient en disant « on fait ce qu'il faut pour Dati » ou, pour propulser Glucksmann à la prochaine présidentielle, que, je cite, « le marais centre-droit, centre-gauche écoute France Inter et il écoute en masse ». À rebours de cette inféodation, la commission d'enquête peut se lire comme le premier acte de l'émancipation, de l'affranchissement du politique vis-à-vis de cette cathédrale. Le politique retrouve sa liberté et sa proéminence et demande des comptes à qui prétendait indûment le contrôler.
Il existe plein de moyens de s'informer aujourd'hui. L'audiovisuel public a-t-il encore une utilité ?
Eh bien, pour déterminer la vocation du service public de l'information, il faut partir de la configuration médiatique actuelle des acteurs privés et voir quels manques importants le service public serait susceptible de combler. Ce qui caractérise le paysage médiatique contemporain, c'est la polarisation et la segmentation. Chaque famille politique possède désormais ses journaux, sa radio, sa chaîne télévisée. On peut vivre sans ne plus jamais croiser les opinions antagonistes, ou plutôt, on ne les croise plus que dans la bouche de ceux de notre camp qui les battent en brèche ou les caricaturent. Les pratiques marketing ont en fait gagné l'univers médiatique, on découpe le public en segments, auxquels on s'adresse ensuite spécifiquement pour se conformer à ses attentes. Ce modèle nous vient bien sûr des États-Unis. Certains rêvaient il y a quelques années d'un Fox News à la française et nous avons eu CNews. Il est courant de dénoncer les bulles de filtre ayant cours sur les réseaux sociaux par l'action des algorithmes qui enferment chacun dans un couloir idéologique, mais ces bulles de filtre sont en fait partout dans la société. Les réseaux sociaux ne faisant qu'avaliser une tendance générale, le repli communautaire, le refus de l'altérité, la radicalisation des idées, l'impossibilité de la discussion. Et en pris acte de l'archipel français, chacun se replie sur son île, que ce soit le militant reconquête sur son fil Twitter ou le prof biberonné à France Inter. Le problème, c'est que la politique est un phénomène tragique, qui consiste essentiellement à organiser la vie bonne et commune d'individus, de familles, de communautés, ayant des opinions souvent divergentes. Une nécessité du commun que piétine cette fragmentation, qui est l'un des symptômes, Marcel Gaucher le dit régulièrement, de la dépolitisation, c'est-à-dire de la perte du sens de l'appartenance à une communauté politique. Le paysage médiatico-politique ressemble aujourd'hui à une guerre de tranchées, parfois de mouvements, qui opposent des camps souhaitant la mort l'un de l'autre. Entre eux, rien que des anathèmes lancés par médias interposés.
Alors comment l'audiovisuel public peut-il remédier à ce problème ?
Eh bien, le service public peut devenir le dernier lieu de rencontre et de discussion entre ces diverses familles idéologiques. Telle est, à mon avis, l'unique vocation qui puisse justifier l'existence d'un service public de l'information en 2026, maintenir le dialogue envers et contre tout entre les différentes îles de l'archipel français, ceci afin de préserver le peu qu'il reste d'unité. Pour réussir, ce lieu de rencontre ne doit pas être un guet-apens pour tout conservateur qui s'y rendrait, comme c'est le cas dans l'émission C'est ce soir, non. Il faut un terrain neutre pour que le dialogue soit sincère, comme pour une rencontre entre deux émissaires diplomatiques. C'est à la condition qu'il devienne une véritable agora, la dernière des agoras, que l'audiovisuel public se remettrait au service du bien commun. Reste donc à inventer les modalités pour mettre en œuvre cette vocation. Par exemple, au lieu de salarier des éditorialistes comme Patrick Cohen pour nous faire la leçon quotidienne, il serait sans doute plus pertinent d'inviter chaque jour des journalistes issus de tous horizons, de gauche et de droite, de Valeurs Actuelles et du Nouvel Obs, pour produire les éditoriaux ou animer les débats. Ce service public rénové serait donc allégé et discret, à mi-chemin entre le producteur et l'arbitre, ayant pour seule tâche d'entretenir la possibilité de la rencontre et du dialogue. Reste une dernière question, la plus grave. Quand bien même on voudrait réformer l'audiovisuel public en ce sens, le pourrait-on ? Permettez-moi ici d'émettre de sérieux doutes. Cela demanderait de la part de ces mandarins un sens des responsabilités et un souci du bien public dont ils ne feront sans doute pas preuve pour des raisons sociologiques, économiques et financières, idéologiques, évidentes. Auquel cas, ce sera la privatisation.
Merci Rémi Carlu, Arnaud Benedetti. Quel regard portez-vous justement sur toute cette séquence de l'audiovisuel public pris un peu la main dans le sac qui a déclenché cette commission d'enquête parlementaire? Vous en pensez quoi?
Moi, je partage ce que vous venez de dire, c'est que la mission, en effet, aujourd'hui, de l'audiovisuel public, qui est un service public, comme son nom l'indique, c'est de contribuer à l'unité, là, dans un pays où l'unité est finalement la chose du monde la moins bien partagée aujourd'hui. Et donc, finalement, le regard que l'on peut porter aujourd'hui sur le fonctionnement de l'audiovisuel public, c'est un regard que, finalement, d'un audiovisuel public qui est polarisé que dans un sens, majoritairement, de manière dominante. Alors, ce qui pose un problème, en effet, au regard de sa mission, mais ce qui pose encore plus un problème au regard de l'état de la société française aujourd'hui. En fait, le service public a pris parti, clairement. Finalement, le service public n'a pas à prendre parti. Le service public doit être, quelque part, le capteur des différents courants qui existent au sein de la société française. C'est ce qu'il ne fait pas, c'est ce qu'il ne fait plus, c'est ce qu'il a pu faire à un moment donné. Il y a toujours eu des débats sur l'audiovisuel public. Ils ne sont pas nouveaux, en l'occurrence. Mais là, manifestement, on a un service public qui ne se cache même plus, si vous voulez, dans le combat qu'il mène. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avance même plus masqué. Et c'est ce qui change vraisemblablement encore plus la situation. Et je crois que c'est un vrai sujet et que c'est un des sujets qui sera certainement mis sur la table durant cette élection présidentielle.
Romaric Sangers avait une question.
Oui, mais pour rebondir sur ce que disait Rémi quant à l'archipélisation dont parle aussi Jérôme Fourquet de la société française, il semble que ces élections en sont une illustration exemplaire et même assez effrayante, puisque au niveau des municipales, on voit que de manière quasiment territoriale, le pays est en train de se fragmenter de manière dramatique, avec d'une certaine manière deux prolétariats, un prolétariat africano-musulman pris en, enfin qui est pris par LFI, enfin dans le, qui est l'électorat LFI, un prolétariat qui vote Rassemblement National, et puis deux bourgeoisies, une bourgeoisie de droite et une bourgeoisie de gauche, que Macron essaye de rallier un peu dans son grand centre qui serait cette alliance des bourgeoisies, avec cette bourgeoisie de gauche qui, comme vous l'avez rappelé, arrive à faire des alliances avec le premier ou deuxième prolétariat, mais que, enfin que qu'est-ce que cela annonce du pays, puisque forcément, au niveau national, comme vous le disiez aussi, il n'y a plus d'unité, cette unité se fragmente. Comment réussir à faire des consensus, des passerelles, ou rassembler une France qui se fragmente de manière aussi flagrante et semble-t-il aussi inéluctable?
Alors c'est tout l'enjeu de la prochaine élection présidentielle. Vous avez raison de rappeler, en fait, il y a quatre sociologies dominantes aujourd'hui, et les élections municipales l'ont révélé à nouveau. Vous avez une sociologie qui est celle... pour aller très vite, des grands centres urbains, avec une bourgeoisie néo-progressiste qui, dont les enfants d'ailleurs votent parfois LFI aussi, c'est très intéressant de le voir, et qui, avec des poussées LFistes dans ces villes. Vous avez ensuite une sociologie qui est la sociologie des villes moyennes, des petites villes, de la ruralité, où là vous avez plutôt une droite qui est dominante et avec une forte poussée du Rassemblement national, une sociologie des classes moyennes supérieures, et puis aussi des classes populaires. Puis vous avez en effet la sociologie des périphéries urbaines, avec un électorat extrêmement communautarisé, que l'on assigne aussi du côté de ceux qui surfent sur le communautarisme à leur identité, à rebours de ce qui a été d'ailleurs quand même le message de la gauche initialement, qui était un message plutôt universaliste, hein, de faire sortir les gens de leur identité pour justement se fondre dans une communauté commune. Là, c'est pas du tout ça. Monsieur Mélenchon a une stratégie très simple. Restez dans votre communauté et je vais m'occuper de vous pour aller très vite. Et ça fonctionne, puisqu'il trouve des relais en plus sur place. Donc cette sociologie. Puis vous avez une quatrième sociologie qui est une sociologie qu'on retrouve parfois dans un certain nombre de villes moyennes, parfois dans l'Ouest, où vous avez une espèce de bloc central, là en l'occurrence, de bourgeoisie progressistes et de bourgeoisie patrimoniale qui peuvent se retrouver dans ce magma qui est le marais aujourd'hui que constitue ce que l'on appelle le socle commun ou le bloc central. Vous avez ces quatre sociologies, pour aller très vite, il y en a d'autres certainement, mais c'est ce qui fait, je veux dire, c'est autour de ces sociologies. Celui qui sera capable de rassembler au mieux ces sociologies, en tout cas de mordre à partir de sa sociologie sur ses autres sociologies, sera celui qui pourra, in fine, l'emporter lors de l'élection présidentielle, qui bénéficiera d'une dynamique. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne voit pas trop quel est le candidat qui est le mieux à même de réussir ce pari. Après, malheureusement, la fragmentation, elle est liée aussi à l'échec du politique depuis 30 ans ou depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, dans un pays où l'unité tenait par le politique et par l'État, à partir du moment où on considère que les politiques publiques, et c'est vrai dans de nombreux segments de l'électorat, ne sont plus capables de protéger, de préparer l'avenir pour la France, de sauver notre industrie, d'être présents sur les grands défis d'avenir que constitue, par exemple, le secteur technologique, etc., etc., vous avez une défiance qui se fait vis-à-vis du politique et chacun retourne à sa propre sociologie. Et donc... on est aussi dans cette, si vous voulez, la crise démocratique, c'est d'abord la crise, on dit crise démocratique, d'ailleurs c'est même pas la crise démocratique, c'est la crise du politique, c'est la crise de l'efficacité politique que nous vivons, qui entraîne ensuite une crise démocratique. C'est ça le facteur qui est le facteur déclencheur. Et je pense que cette crise du politique explique aussi ces sociologies multiples, et cette archipélisation, comme dirait Fourquet, et cette incapacité à retrouver finalement une unité. Alors, l'unité a toujours été quand même un fantasme aussi. La France n'a jamais, une société n'est jamais unitaire, même les sociétés totalitaires. Mais la réalité, c'est qu'il y avait au moins un sentiment d'appartenance qui était commun. Et là, le sentiment d'appartenance, il y a des tas de séparatismes qui se sont développés. Le séparatisme des bourgeois, le séparatisme évidemment des populations nouvellement
entrés en France, dont un certain nombre ne se retrouvent plus dans les valeurs qui sont les nôtres. Le séparatisme des jeunes urbains qui ne veulent pas entendre, qui sont complètement acquis à la mondialisation, qui vivent dans des conditions confortables, qui d'ailleurs parfois votent LFI, et qui ne veulent pas du tout entendre parler des ruraux ou des gens qui vivent dans la France périurbaine, ceux qui notamment se sont levés avec les gilets jaunes en 2018, ils ont le plus parfait mépris. Souvenez-vous, par exemple, la phrase d'un ancien porte-parole du gouvernement qui, au début de la crise des gilets jaunes, avait parlé de ces fumeurs de clopes qui roulent au diesel et qui, finalement, ne comprennent rien à l'évolution du monde. Ce mépris social, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi fort, d'ailleurs, peut-être, d'une partie de la bourgeoisie progressiste vis-à-vis, par exemple, de ceux qui votent le Rassemblement National. Donc ça, c'est, en effet, quelque chose qui est à la fois inquiétant. Et il y a quand même une part de responsabilité. La part de responsabilité dans la désagrégation dans laquelle nous nous retrouvons et qui ne cesse de s'accélérer, ce sont les élites dirigeantes qui la portent, essentiellement.
Alors, sur les élites dirigeantes, alors le problème, c'est qu'on est dans un pays très centralisé.
Ouais.
Et en gros, si vous avez l'Élysée plus deux grandes métropoles, bah vous avez le pouvoir, même si vous êtes minoritaire. C'est le problème, c'est voilà, ouais. Notamment à Paris, le pouvoir est à Paris. Moi, je vous mets une hypothèse. J'étais très. J'ai entendu le discours d'Emmanuel Grégoire le jour de ce soir de sa victoire. Son programme, c'était Vive les LGBT, on va transformer Paris en LGBT City. En même temps, on va doubler, quadrupler les HLM. Ceux qui habitent dans HLM ne sont pas les LGBT, ne sont pas des bourgeois, ne sont pas les popus, ne sont pas les classes moyennes, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs.
Oui.
L'immigration, ce n'est pas une immigration suédoise. Donc, c'est une immigration avec une culture différente. Je ne vois pas une cohabitation possible entre les LGBT City et les migrations. Ce qui me fait que je me dis, dans 6 ans, prochaine élection, ils votent tous à droite ou extrême droite.
Alors,
ils sont convertis.
Vous touchez un sujet qui est un sujet majeur dans l'évolution de la gauche. Parce que moi, quand on me dit qu'il y a de gauche, mais enfin, globalement, l'évolution qui est celle de LFI et ce qu'incarne LFI est à rechercher dans l'histoire de la gauche réformiste. Déjà. Souvenez-vous la fameuse note de Terra Nova sur le remplacement finalement de la classe ouvrière et des classes populaires par un nouvel électorat qui est un nouvel électorat issu de l'immigration et on en voit les conséquences aujourd'hui parce que très souvent les maires qui sont chassés des mairies comme ils l'ont été ces derniers jours sont des maires de gauche. Parfois des maires LR qui eux-mêmes, pour certains d'entre eux, ont pratiqué des politiques qui étaient communautaristes et clientélistes. Vous savez, la révolution dévore toujours ses propres enfants. Et ce qui est très intéressant dans ce que l'on voit, c'est que ce sont des maires blancs socialistes qui sont chassés de leur mairie par des électorats qui sont communautarisés. Et la prochaine étape, évidemment, c'est l'électorat communautarisé qui prendra le pouvoir au sein de LFI et qui chassera les leaders historiques de LFI. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et l'évolution, j'allais dire, elle est inscrite déjà dans le droit fil des événements. Alors après l'échéance, on verra, mais ça c'est une question de rythme. De la même manière, moi je pense que, si vous voulez, dans le progressisme, il y a une sorte de source commune. Ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle intersectionnalité. C'est-à-dire qu'on va faire cohabiter le nouveau prolétariat issu de l'immigration et puis, en effet, des populations qui viennent des centres urbains, qui défendent tout un ensemble de droits de minorités. Mais on sait très bien que là aussi, dans l'évolution et dans la dynamique historique, ça ne peut pas marcher.
Mais là, on est à Paris, on n'est pas à Saint-Denis.
Mais ça se passera à Paris comme ça se passe aujourd'hui à Saint-Denis.
Vous pensez que Paris, en fait, va devenir Saint-Denis ?
C'est-à-dire que, in fine, à un moment donné, si vous voulez, le problème, c'est que c'est la croissance démographique. La politique s'explique aussi par la sociologie et par la démographie, c'est lié. Donc, à partir du moment où vous faites rentrer toujours plus de populations nouvelles, qu'en plus... Alors, c'est vrai que M. Grégoire n'a pas le discours de M. Mélenchon. Il assigne pas les gens à leurs origines. C'est la différence fondamentale. Mais regardez les arrondissements qui envoient des députés LFI, ce sont des arrondissements qui sont, force est de le constater, où l'électorat est en grande partie issu de cette immigration. Là, donc, je pense qu'il y a, à un moment donné, une espèce de contradiction dans le discours politique de ce néo-progressisme qui... amènera à des luttes internes qui seront des luttes extrêmement dures et parfois violentes. Parce que ce qu'on a vécu quand même ces derniers jours dans un certain nombre de villes de la banlieue parisienne est tout à fait révélateur de tensions que l'on voyait venir pour qui sait un peu regarder l'évolution de la société. Évidemment, on peut pas vouloir l'avoir. Et c'est très souvent confortable de ne pas vouloir l'avoir quand on reste finalement axé sur son logiciel idéologique. Mais la réalité, c'est que moi, je vois le maire de Creil qui se fait chasser de sa municipalité. C'est un maire socialiste. Donc c'est pas un maire qui était hostile à l'immigration, c'était un maire certainement qui avait tout fait pour que l'immigration puisse avoir sa place dans sa société. Le maire de Saint-Denis n'était que le directeur de campagne ou le directeur de cabinet de monsieur Hamon, qui n'est quand même pas, je veux dire, connu pour être un extrémiste de droite. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement, je veux dire, à la fois intéressant du point de vue évidemment de l'analyse, mais extrêmement préoccupant dans ce que nous annonce, ce qui se passe, ce que nous annonce en tout cas, c'est ces prises de pouvoir par des municipalités communautaires dans un certain nombre de villes. Ils sont sur une logique de menace qui est extrêmement intéressante aussi. Regardez la façon dont le maire de Saint-Denis menace, à mot à peine couvert, le personnel municipal qui n'appliquerait pas sa politique. C'est tout à fait révélateur. Regardez la façon dont M. Guiraud dit qu'il surveille tout ce qui est dit sur sa ville aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour mener des actions judiciaires au cas où. On est dans une logique de menace, dans une logique de rapport de force extrêmement violent, dans une logique qui ne relève pas du sentiment démocratique, indéniablement. Et ça pose un énorme problème à la gauche, mais au-delà de la gauche, ça pose un énorme problème à la société française, et ça pose un énorme problème à l'ensemble de la classe politique française, y compris celle à droite qui n'a pas voulu voir un certain nombre d'évolutions.
Alors, heureusement pour nous, pour la France et pour la galaxie, il y a les Républicains. Je plaisante, chers auditeurs. Mais les Républicains, c'est intéressant, parce que là, c'est rififi depuis ce matin. Ils ont fait un bureau, pour ceux qui ne sont pas au courant, et ça a chauffé un peu. Alors, il y a, il me semble, Monsieur Copé. Alors, à chaque élection, on découvre qu'il existe encore, lui. Et hop, il revient sur les plateaux de télé pour expliquer ce qu'il faut faire. Il a dit que c'était l'heure de faire un schisme. Il y a eu David Lisnard qui a dit « je pars », et qui va quand même voir Bruno Retailleau avant. On a eu Laurent Wauquiez qui tout de suite a pris la parole, il a peut-être la méthode à l'effice, le premier à avoir dégainé le soir des municipales en disant on va faire une grande primaire de Philippe à Sarah Knafo. Sarah Knafo n'est pas extrême droite. Et puis vous avez les autres qui disent oui mais en fait non, dans la primaire on va peut-être en faire deux parce que ils sont pas les mêmes. Bref, à votre avis, alors non pas que je souhaite sauver les Républicains, mais je me dis si ce parti explose, il peut y avoir des répercussions dans d'autres partis. Rassemblement National, Reconquête ou création d'un troisième bord, on a une clarification dans un truc qui ressemblait plus à grand chose. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Bah, si vous voulez, c'est une forme de guerre de sécession à nouveau. Bon, ils ont connu une crise interne qui a failli les tuer définitivement en 2024 après le départ d'Éric Ciotti. Concernant ces élections municipales, ils n'ont pas eu trop de crise parce que bon, ils avaient leurs implantations locales qui leur permettaient de passer ce cap sans gagner certes des grandes villes, mais globalement en conservant un certain nombre de places dans les villes moyennes et dans les petites villes. Mais de toute façon, ils ont passé peut-être ce cap, mais le problème reste le même, c'est-à-dire quelle est la place et quel est le sens existentiel, politique d'un parti comme LR qui finalement refuse de choisir entre d'un côté un pôle qui est un pôle centriste, un pôle centre-droit, auquel il s'est quand même allié, puisque quand même M. Retailleau était ministre de l'Intérieur des deux avant-derniers premiers ministres, M. Barnier et M. Bayrou, avec certainement une intention qui était louable, c'est-à-dire en disant « je veux peser, je ne suis pas macroniste, mais je veux peser sur le cours des événements ». Bon, ça n'a pas fonctionné. Et puis évidemment le problème de LR, c'est que vous voyez par exemple dans le Sud-Est, c'est très intéressant, 90% de l'électorat LR aujourd'hui vote Rassemblement National. Ouais, parce que qui vote, et quel est l'électorat de M. Ciotti, alors, qui est pas Rassemblement National, qui est UDR, mais qui a fait alliance avec le Rassemblement National à Nice? C'est un électorat LR. Les mairies qui sont conquises par le Rassemblement National dans le Var, à Menton par exemple, c'est l'ancien électorat LR qui a voté pour Madame Masson. Donc on est, si vous voulez, face à une droite qui s'est fait vampiriser progressivement par le Rassemblement National, qui n'a pas véritablement de figure capable d'incarner à ce stade un leadership, qui n'a pas véritablement un programme très clairement identifiable et qui n'a plus de sociologie électorale ou pratiquement plus de sociologie électorale. Je rappelle quand même que Mme Pécresse a fait moins de 5% aux élections présidentielles, c'est le juge Lepay. Hein. On est passé de 20% à François Fillon en 6 ans, en 7 ans, en 5 ans, pardon, à moins de 5% pour Mme Pécresse. Donc, est-ce qu'ils ont une capacité aujourd'hui à rebondir? Ça va être encore plus difficile pour eux parce qu'ils se sont, entre 2024 et aujourd'hui, à la différence de ce qui s'était passé à partir de 2017 jusqu'à 2024, engagé politiquement dans des alliances avec ce qui restait du pôle macroniste. Parce que bon, il y avait des LR qui étaient partis chez les macronistes, à commencer par le premier Premier ministre, M. Philippe, mais c'était toujours des débauchages individuels. Là, vous avez eu, de fait, un accord. Un accord de parti où on a décidé de gouverner quand même à un moment donné, de faire un bout de chemin avec le macronisme et ses héritiers. Et on voit ce que ça donne à Paris, par exemple. Mais parce que Mme Dati paye ça aussi, également, cette ambiguïté. Ouais. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, comme disait le cardinal de Retz. Et je crains que ça soit quand même la maxime qui s'applique aujourd'hui au LR.
Mais les républicains, certes, n'ont plus d'électeurs. Ne pèsent plus grand-chose, mais ont une valeur fondamentale dans notre démocratie aujourd'hui, c'est qu'ils permettent le front républicain, ou en tout cas ils permettent de repousser encore tout ce qui est à leur droite comme extrême droite. Si les LR disparaissent, c'est qui le parti de droite ?
Mais de toute façon, le parti de droite aujourd'hui, le parti de droite qui existe aujourd'hui et qui a récupéré encore une fois la 80% de l'électorat LR et qui d'ailleurs s'est recentré, c'est le Rassemblement National.
Oui, mais ils vont pas passer de... Il y a la gauche, il y a l'extrême droite. Non, je parlais dans le récit, parce que ce qui est important, c'est le récit.
Même
dans
le ministère de l'Intérieur, tout simplement.
Ils sont un rouage essentiel dans le récit du classement. Si vous enlevez les LR, ça veut dire que vous avez la gauche, le centre, l'extrême droite.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Il manque une étape.
Quoi. Oui, il manque une étape, et cette étape, c'est en effet la droite dite républicaine qui va progressivement disparaître dans le triangle des Bermudes de ses ambivalences et de ses ambiguïtés. Nonobstant la qualité d'un certain nombre de responsables politiques chez LR, qui est indéniable. Mais manifestement, ils n'ont jamais réussi à résoudre cette équation qui se pose à eux depuis 2017, entre d'un côté le macronisme qui fait pression et qui pille une partie de leur cadre et parfois une partie de leur électorat aussi, moins importante à mon avis que le Rassemblement National, et puis la pression du Rassemblement National qui, en se recentrant qui plus est, a réussi à capter une grande partie même de cet électorat, le Sud-Est étant encore une fois, je crois, un formidable laboratoire pour observer ce phénomène, ce mouvement.
Ce dilemme ressemble un peu à choisir entre une Ferrari ou monter sur le Titanic, quoi. Parce que aujourd'hui, la partie de LR qui veut rejoindre Macron, qui est en train de s'effondrer, ou à l'inverse, le RN qui est une force très puissante et qui, on peut tout à fait prétendre à prendre le pouvoir. C'est un dilemme qui, on s'étonne toujours de voir quand même LR autant tergiversé, d'autant que pour le coup, Éric Ciotti a été récompensé de son choix, puisque ça lui a pas empêché de prendre la mairie de Nice.
Moi, je crains qu'il ne soit condamné à n'être, on peut se tromper toujours, il faut être toujours très prudent lorsqu'on fait des pronostics, à n'être plus qu'une force d'appoint pour l'un ou pour l'autre. Donc, c'est bien le sujet de LR. Seront-ils une force d'appoint pour le Rassemblement National ? Ils n'en prennent pas le chemin, manifestement. Alors, c'est vrai qu'aussi, du côté du Rassemblement National, on n'est pas favorable à l'union des droites. On le dit tous les matins, tous les soirs, même s'il y a parfois des nuances entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et de toute façon, du côté des états-majors de LR, on voit bien que Bruno Retailleau essaye de tenir une position à équidistance entre celle de M. Ciotti, qui lui a franchi le pas, et celle d'un certain nombre de caciques de LR qui se refusent à toute alliance parce qu'ils sont dans un logiciel chiracien qui est d'ailleurs totalement obsolescent. C'est monsieur Bertrand ou monsieur Copé qui répète à l'envi qu'il est hors de question de s'allier avec l'extrême droite. D'ailleurs, nous préciser quelle est leur définition de l'extrême droite qu'ils sont totalement incapables de donner. Mais vous savez, ce phénomène est religieux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est totalement basé sur une espèce de foi, de croyance que l'on ne peut pas démontrer, que l'on ne peut pas prouver. On ne peut pas démontrer et prouver aujourd'hui que le Rassemblement National est d'extrême droite. Pour être d'extrême droite, faudrait-il qu'il soit anti-républicain ? Faudrait-il qu'il soit antisémite ? Faudrait-il qu'il remette en cause la démocratie ? Faudrait-il qu'il soit raciste, ce qu'il n'est pas, et je n'entends pas un mot de raciste dans les propos des cadres du Rassemblement National. Donc il est très difficile aujourd'hui de continuer d'accréditer l'idée que le Rassemblement National est un mouvement d'extrême droite, est un mouvement fasciste. Il n'a plus aucune des caractéristiques sur le plan historique des mouvements qui étaient les mouvements d'extrême droite. D'ailleurs, tous les historiens un peu sérieux avec lesquels vous discutez et qui sont à mon avis beaucoup plus à même de caractériser un mouvement politique que le Conseil d'État ou que le ministère de l'Intérieur tiennent à peu près le même discours, sauf quand ils sont aveuglés par des biais idéologiques.
Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Nous voici avec un brouillard un peu moins épais. Affaire à suivre, parce que ça va bouger, ça bougera de façon beaucoup jusqu'en 2027. Chers auditeurs, dans quelques instants, on se retrouve le temps d'une petite pause et on parlera littérature et peut-être même un peu cinéma.